Bonjour à tous, il est tout juste 16h à Paris et vous êtes bien sur RFI.
Olivier Sherman.
Emmanuel Macron est en Asie, appelle les pays de la région à former de nouvelles alliances et à refuser le deux poids, deux mesures face au règne de la force et des superpuissances. Nous retrouverons dès le début de ce journal notre envoyé spécial Nicolas Roca sur place. La guerre dans la bande de Gaza pour l'ONU, 100% de la population de l'enclave palestinienne est menacée de famine et nous verrons que l'espoir de trêve est loin de voir le jour. Même si Israël a accepté les propositions américaines, le Hamas, lui, réserve sa réponse. Nous verrons pourquoi. La France durcit le ton dans sa lutte contre le tabac. Dans tout juste un mois, il sera interdit de fumer dans tous les lieux fréquentés par les enfants, comme les plages, les parcs, les abords des écoles ou encore les installations sportives. Enfin, nous terminerons par du tennis. C'est le troisième tour de Roland-Garros qui a débuté ce vendredi. Gros plan aujourd'hui sur les Portugais Nuno Borges et Henrique Rocha. Des qualifiés surprise, c'est même la première fois que le pays est doublement représenté à un tournoi du Grand Chelem. Emmanuel Macron est donc à Singapour et participe au principal forum asiatique de défense et de sécurité. Le président français appelle les pays asiatiques à s'émanciper en formant une sorte de coalition des indépendances. Emmanuel Macron appelle à de nouvelles coalitions face au règne de la force. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Olivier.
Vous êtes à Singapour et vous venez de suivre le discours du chef de l'État. Emmanuel Macron appelle donc à de nouvelles alliances.
Oui, intéressez-vous à l'Ukraine. Ce qui nous arrive aujourd'hui à nous, Européens, pourra bientôt arriver à Taïwan. Le parallèle entre Kiev et les archipels en mer de Chine méridionale, Emmanuel Macron l'a dressé. Il voulait marquer les esprits devant les ministres de la Défense, notamment Pete Hegseth, secrétaire à la Défense américain. Il a assumé une ligne d'alliance avec les États-Unis, mais surtout d'indépendance face aux deux géants, Pékin et Washington. Mais c'est sur le grand absent chinois qu'il a été le plus vocal, parlant de pays qui veulent s'approprier des ressources, la pêche, des minerais. Entre les lignes qui laissent faire la Corée du Nord lorsqu'elle envoie des hommes se battre sur le sol européen, le président français a défendu aussi la place de son pays dans la région, celle de son armée, a essayé de rassurer sur la volonté commune de plusieurs pays européens d'augmenter le budget militaire pour assurer elle-même son indépendance stratégique face aux États-Unis. Et puis il a surtout invité les pays asiatiques à suivre le même chemin. Il l'a appelé une coalition des indépendances avec des partenariats, des échanges. L'objectif, séduire une partie des pays asiatiques qui ne souhaitent ni froisser Pékin ni Washington, mais surtout qui refusent de dépendre d'eux. Il a également poursuivi son offensive diplomatique sur Gaza, dénonçant des doubles standards et martelant encore une fois la volonté de montrer la capacité française à avoir une voix indépendante.
Nicolas Roca, en direct de Singapour. Gaza est l'endroit le plus affamé au monde. 100% de la population est menacée de famine. Une déclaration des Nations Unies. Ce matin, à Gaza, la population manque de tout. Nourriture, eau, médicaments, essence. L'ONU a expliqué en détail les difficultés qu'elle rencontrait pour acheminer dans le territoire palestinien l'aide humanitaire qu'Israël ne laisse rentrer qu'au compte-gouttes. Selon les Nations Unies, 900 camions d'aide humanitaire ont été autorisés par Israël depuis la levée partielle du blocus. Mais pour l'instant, seuls les chargements de 600 camions sont accessibles. Et un nombre encore moindre a pu être acheminé dans le territoire en raison des bombardements, de l'insécurité, de la congestion des rares routes sur lesquelles l'armée israélienne autorise le passage. Concernant la trêve évoquée par les Américains, Israël affirme accepter le nouveau plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis. De son côté, le Hamas continue officiellement à étudier ce nouveau projet, mais estime qu'il est trop en faveur du côté israélien. Que sait-on de ce nouveau plan ? Les explications avec à Jérusalem Michel Paul.
Eh bien, ce nouveau plan prévoit une trêve de 60 jours, selon des sources israéliennes qui sont citées par les médias ici, avec la libération immédiate de la moitié des otages présumés être toujours vivants. Ils sont au nombre de 10. Alors, la partie la plus sensible porte sur la fin de l'état de belligérance. Une formule a été mise au point par l'émissaire américain Steve Witkoff. Israël s'engagerait à respecter un cessez-le-feu à longue échéance, tout en négociant une nouvelle phase de l'accord qui pourrait aboutir sur la fin des combats. Et c'est sur ce point précis qu'une fois encore, la négociation semble achoppée. L'élément nouveau, en tout cas cette fois-ci, c'est que le Hamas demande pour sa part des garanties, notamment directement de la part du président américain Donald Trump. C'est lui qui devrait personnellement annoncer un cessez-le-feu.
L'élection présidentielle en Pologne, c'est dimanche pour le deuxième tour. Le maire pro-européen de Varsovie, un historien nationaliste, entre dans les dernières heures de campagne ce vendredi. Et les sondages d'opinion prédisent un résultat extrêmement serré lors du vote. L'Ukraine, prête à participer au nouveau pourparlers proposé par la Russie à Istanbul lundi prochain, mais demande à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Les positions officielles des deux belligérants semblent difficilement conciliables. La Russie exige notamment que l'Ukraine renonce à jamais rejoindre l'OTAN et lui cède les 5 régions dont elle revendique l'annexion. Et ce matin, le Kremlin a écarté une rencontre proposée par la Turquie entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump sous l'égide de Recep Tayyip Erdogan. La Russie conditionne tout sommet de ce type à l'obtention de résultats dans les négociations avec Kiev. En France, la lutte contre le tabac continue. Après les restaurants et les transports publics, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, souhaite élargir l'interdiction de fumer à tous les lieux fréquentés par les enfants. Les parcs, les abords des écoles ou encore les installations sportives seront des zones non fumeurs à partir du 1er janvier 2025, dans un mois donc. Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Olivier.
C'est donc l'objectif du plan tabac qui a été dévoilé ce vendredi, éloigner la tentation de la cigarette chez les jeunes.
Oui, plus de cigarettes dans les jardins publics, sur les plages, sous les abribus, aux abords des écoles, des bibliothèques, des piscines, des stades ou autres installations sportives et lieux dédiés à l'accueil de mineurs. Au risque de recevoir une amende de 135 euros, la mesure entrera en vigueur dès le 1er juillet. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, souhaite faire des enfants nés en 2025 la première génération sans tabac en France. Ces deux autres mesures visent donc également à éloigner la tentation de fumer chez les adolescents. D'abord en réduisant le taux de nicotine autorisé, puis en restreignant les arômes disponibles dans les produits du tabac et du vapotage pour ne pas séduire les jeunes consommateurs. Pour fixer ces nouvelles limites, elle a chargé la Haute Autorité de Santé et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de lui faire des recommandations. Leur rapport est attendu pour septembre 2025. Il faudra ensuite rédiger les arrêtés, en notifier l'Union européenne. L'application de ces deux mesures n'est donc pas prévue avant le deuxième trimestre 2026. Aujourd'hui, Olivier, le tabac est la première cause de mort évitable en France. Il est responsable d'un décès sur 10, soit 200 morts par jour.
Merci Amélie Beaucourt du service France de RFI. Enfin en tennis, le troisième tour de Roland-Garros a débuté ce vendredi avec sur les courts les deux numéros 1 mondiaux, Arina Sabalenka chez les dames et Carlos Alcaraz chez les messieurs. Leur présence à ce niveau est habituelle. Celle des Portugais Nuno Borges et Henrique Rocha, beaucoup moins. C'est même la première fois que le pays est doublement représenté au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Toutes les explications avec Babacar Diarra.
Hasard ou coïncidence, tout a démarré à Maia, au nord de Porto, pour Nuno Borges et Henrique Rocha. Un lieu de naissance commun, mais un parcours et des générations différentes. Le premier est parti perfectionner son tennis aux États-Unis, avant de revenir au pays, où il a retrouvé le jeune Rocha, 21 ans, dans le centre fédéral.
Nous travaillons tous les deux dans le giron de la fédération. Nous nous entraînons régulièrement ensemble. Nous avons une belle équipe derrière nous. C'est le plus important, ça, d'être bien entouré. Alors forcément, les résultats suivent.
Rocha empile les victoires depuis la semaine dernière à Roland, où son 200e rang mondial l'a obligé à passer par les qualifications. Nuno Borges est lui devenu le premier Portugais à sortir un top 10 mondial dans un grand chelem. Le Norvégien Casper Ruud, la terre ocre, porte chance à ses enfants de la péninsule ibérique, même s'il faut se méfier des clichés, selon le journaliste portugais José Morgado.
Ils ont grandi avec la terre battue, mais ensuite, ils ont beaucoup joué sur dur. Surtout Nuno, qui a passé 5 ans aux États-Unis, où il n'a pas vu du tout de terre battue, étant donné que les matchs d'université se jouaient sur dur. Évidemment, ils peuvent jouer sur toutes les surfaces, même si leur surface naturelle, c'est la terre battue, parce que c'est la plus répandue au Portugal.
Dans deux tours, si les planètes s'alignent pour eux, ils pourraient réaliser le meilleur parcours d'un Portugais dans un tournoi majeur.
Voilà, c'était le parcours des Portugais Roland-Garros. C'est actuellement le Portugais, donc Nuno Borges, est affronté à Alexei Poprin. Et Borges perd les deux premiers sets, 6-4, 7-6. Et dans le dernier, il est mené 5 jeux à 4. Enfin, un petit mot de football, pour vous rappeler quand même notre dispositif RFI pour demain soir, avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Ce sera une finale à suivre sur nos antennes. Je vous rappelle qu'un dispositif massif policier a été mis en place, plus de 5400 personnes, policiers, seront déployées dans la capitale parisienne. Tout de suite, c'est Pas du Vent avec Anne-Cécile Bras, qu'on retrouve tout de suite. Très bonne journée sur RFI.